En Actes 13, 7, il nous est parlé d'un homme intelligent qui avait le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Que notre bon Seigneur ce matin mette ce vif désir d'entendre sa parole en chacun de nous. Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu. Nous avons deux lectures, la première étant dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 1 à 7, dans la page 87, dans le Nouveau Testament, Luc 15, 1 à 7. Avant cette lecture, nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, mais en chaque personne ici présente, nous t'en prions, le vif désir d'entendre ta parole. Elle nous est tellement précieuse, cette parole, c'est par elle que tu nous as fait connaître Jésus-Christ et son œuvre parfaite. C'est par elle aussi que tu nous maintiens dans cet état de justification, d'adoption, de vie heureuse en toi. Alors nous prions que ta parole ce matin nous rétablisse, nous ramène, nous fasse du bien, nous restaure, qu'elle nous transforme à la gloire de ton nom. Parle à nos cœurs, descends dans nos êtres intérieurs pour faire la besogne que toi seul tu peux opérer. Nous nous en remettons à toi et nous espérons en toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc Luc 15, 1 à 7. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et puis nous tournons à notre deuxième lecture au psaume 23, dans l'Ancien Testament, à la page 553. Au psaume 23, nous écouterons la lecture des trois premiers versets. Psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Amen. Dans une petite ville se trouve un atelier de réparation dont l'enseigne dit « Ici, nous réparons tout, sauf les cœurs brisés ». C'est une grande affirmation, mais en même temps, une publicité assez intéressante. « Nous réparons tout, sauf les cœurs brisés ». Est-ce à dire que les cœurs brisés, c'est impossible de les réparer? Au psaume 147, au verset 3, il est écrit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Ah, Dieu est bon. Dieu a la puissance, la capacité de guérir, de réparer les cœurs brisés. Mais qu'est-ce qui brise le cœur? Ce qui nous brise le cœur, c'est d'abord et avant tout le péché, et plus spécialement nos propres péchés, qui nous brisent le cœur. Comment le bon berger s'y prend-il pour nous réparer? Pour nous guérir? C'est la question du jour, alors que nous continuons notre méditation du magnifique psaume 23. Nous sommes rendus au verset 3 que je relis maintenant. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Premièrement donc, le bon berger restaure mon âme. Qu'est-ce que David veut dire par « Il restaure mon âme », ce sont quatre mots Bien simple, mais que signifie-t-il? Le mot « restaurer » est un des mots les plus intéressants de la Bible. Il est utilisé 369 fois et il a le sens de « faire revenir où nous étions avant ». C'est comme si David nous dit « L'Éternel est mon berger, il me fait revenir. Quand je m'éloigne, quand je m'égare, il me fait revenir à lui. Il restaure mon âme. » Si chaque jour, spirituellement parlant, nous étions, disons, mieux qu'hier, s'il n'y avait jamais des accrocs dans notre communion avec Dieu, le bon berger n'aurait pas besoin de restaurer notre âme, de nous faire revenir à lui. Mais nous nous égarons, nous nous éloignons, nous l'oublions, nous négligeons. Et donc, il doit nous faire revenir à lui, sinon nous allons être perdus une fois pour toutes. Au psaume 119, le plus long psaume de la Bible, au tout dernier verset, au verset 176, David dit « Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur. » Qu'est-ce que c'est que cette confession-là si ce n'est pas reconnaître que notre nature pécheresse est encore là, en nous, et nous amène à nous égarer et à nous éloigner du bon berger. Mais, bonne nouvelle, Dieu répare, restaure, ramène et guérit. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples bouleversants de cette réalité, mais je vous rappelle cette réalité dans la vie de David lui-même. Je vous rappelle brièvement un événement dont vous allez vous rappeler le souvenir vous-même. Écoutons quelques extraits de 2 Samuel 11. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, « C'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Vous connaissez la suite, les intrigues à n'en plus finir de David pour essayer de cacher et camoufler ses fautes, ajoutant crime sur crime, dont celui de faire tuer le mari de Bathsheba. La Bible dit, « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » David est maintenant une brebis égarée. Qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Dieu va déclarer l'opération restauration de David. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il s'y prendre? Écoutez bien la suite. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint et dit à David, Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait du petit, du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses fils, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela était trop peu, j'y ajouterais encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » La confession plus détaillée de David suite à cette série de crimes se trouve au psaume 51. Voici un petit extrait. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Efface toutes mes fautes. » Dieu a restauré David. Dieu a fait revenir David à lui. Dieu a amené David à la repentance. À cause des restes de péché en nous et des tentations du diable et du monde, nous ne pourrions pas persister dans la grâce si nous étions laissés à nous-mêmes et à nos propres forces. Mais Dieu est fidèle à l'égard de ses bien-aimés et il les restaure. Il nous fait revenir à lui et nous maintient miséricordieusement dans la grâce. Il ne permet pas que nous tombions au point de perdre la grâce d'adoption ou l'état de justification. Il nous renouvelle vraiment et efficacement et puissamment par sa parole et par son esprit. C'est grâce à Dieu seul que nous ne perdons pas la foi et le salut. Nous tenons parce que nous sommes tenus par Dieu. Tous ces trésors d'une valeur inestimable sont inclus dans les mots « Il restaure mon âme ». Le bon berger ranime notre âme qui s'était comme évanouie, comme endormie. Il la refait, il la vivifie, il la ramène, il la recrée en quelque sorte. Il nous fait revenir de nos errements. Il nous rétablit. Il nous rebâtit. Il nous répare. Il nous fortifie. Il nous guérit par divers moyens, principalement sa parole et son esprit. Il est écrit au psaume 19:8, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Êtes-vous spirituellement à votre plus bas ces temps-ci? Avez-vous fait une sortie de route spirituelle? Tournez-vous vers le bon berger. Dites-lui, « Restaure mon âme, Seigneur. » Il y a ces paroles extraordinaires en Osée 14. Dieu dit à son peuple, « Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Ils reviendront et ils fleuriront. » Quelle parole bienfaisante pour les enfants de Dieu, qui nous rappelle, oui, nos égarements, nos fautes, mais qui nous rappelle aussi la grâce incomparable et patiente, l'amour de Dieu. On pourrait se souvenir aussi de à quel point le Seigneur Jésus-Christ a traité affectueusement et avec amour et patience l'apôtre Pierre lorsqu'il a chuté. Quand nous chutons, des remords affreux peuvent envahir notre âme. Nous avons parfois l'impression de tomber dans un désespoir. Quand on regarde les psalmistes dans le livre des psaumes, ils sont souvent découragés et abattus par leurs propres fautes. Beaucoup de personnes pensent que quand un enfant de Dieu s'égare, le Seigneur le rejette avec colère et ça finit là. Mais non, 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 le Seigneur aime ses bien-aimés et il va vers ses bien-aimés, il les secourt, il les relève, il les restaure. Quelle grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Certains disent, si Dieu nous avait empêchés de tomber au départ, il n'aurait pas eu besoin par la suite de nous restaurer. Pourquoi est-ce qu'il ne nous empêche pas, dès le départ, de tomber? Par exemple, pourquoi n'a-t-il pas empêché David de commettre l'adultère avec Bathsheba? Étant souverain, il aurait pu, tiens, laisser David dormir plus longtemps, de sorte que quand David s'est levé et allé sur le toit, Madame était partie, il aurait pu régler ça comme ça. Des fois, nous ne disons pas ces mots-là, mais nous les pensons. Et ce genre de réflexion ne fait que nous montrer encore plus notre nature pécheresse. Nous cherchons à blâmer Dieu, à mettre le blâme sur Dieu pour nos égarements. L'Éternel restaure mon âme, ça veut dire l'Éternel guérit mon âme, la répare, la ramène, lui redonne la vigueur et la force pour marcher dans les sentiers du Seigneur. C'est ça que produit l'amour généreux de Dieu. Et on ne peut que dire, mais quelle grande bonté le Seigneur a pour ses bien-aimés. Deuxièmement, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cette notion de « il me conduit dans les sentiers de la justice » est liée au mot « il restaure mon âme ». Les deux pensées vont ensemble. Pourquoi avons-nous besoin de restauration? C'est parce que nous avons quitté les bons sentiers de la justice et nous nous sommes égarés loin du bon chemin du Seigneur. Nous nous sommes engagés sur des voies de péché. La restauration nous replace sur les bons sentiers que nous n'aurions jamais dû quitter. Il y a quelque chose de profondément personnel, de profondément tendre, affectueux et aimant dans cette image du bon berger qui va chercher sa brebis égarée, qui la remet avec amour et patience et sagesse sur la bonne voie. Par notre propre faute, nous étions égarés dans des voies tortueuses, nous étions détournés du bon chemin. Dans son amour, le bon berger nous ramène à lui, nous replace et nous conduit sur la route sécuritaire de la droiture. Le sentier de la justice, c'est le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu, tout simplement. Le bon berger connaît le bon chemin pour ses brebis et il les fait marcher sur ce bon chemin en toute sécurité et la brebis s'en réjouit. Elle est reconnaissante et elle veut prier sans cesse cette prière du psaume 5. Aplanis mon chemin vers toi, ô Seigneur, et dirige-moi afin que je puisse accomplir ce qui est juste à tes yeux. Quelle belle prière! Selon ce psaume 23, donc, il y a une façon de vivre qui est juste aux yeux de Dieu et il y a une façon de vivre qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu nous restaure, lorsqu'il restaure notre âme, il nous transforme profondément par son esprit pour que nous vivions d'une manière qui lui soit agréable. C'est le Seigneur qui fait ça, et lui seul qui peut opérer cette transformation-là par grâce, dans sa puissance. Être mené dans ses sentiers veut dire être replacé devant le désir profond que Dieu met en nous, ceux qui ont faim, soif de justice, de faire la volonté de Dieu, de marcher selon les normes divines, et le bon berger donne le vouloir et le faire, qu'il est bon. Nous devrions toujours, évidemment, marcher le plus près possible du bon berger. C'est là que c'est le chemin le plus sécuritaire. C'est là que se trouvent véritablement nos intérêts. Nous rebeller contre le bon berger, c'est en réalité combattre notre propre bonheur, nos propres intérêts. Et dans la Bible, on voit que ce sont toujours les brebis qui s'égarent, qui errent, qui se rebellent contre le berger, qui se retrouvent dans la misère, le trouble et le danger. Mais pour quelle raison ultime le Seigneur mène-t-il son troupeau sur ces sentiers de la justice? Est-ce que c'est parce que nous le méritons bien? Non, loin de là. La réponse dans notre verset 3, la suivante, c'est à cause de son nom. À cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible répète souvent que Dieu est juste, qu'il est droit. Psaume 97, 1 et 2, « La justice et le droit sont la base de son trône. » En étant un Dieu de justice, Dieu veut un peuple qui marche dans les sentiers de la justice. Si son peuple ne marche pas dans les sentiers de la justice, qu'est-ce qui va arriver? Dieu deviendra la risée de ses adversaires. Les ennemis diront, « Voyez comme ce peuple se conduit mal. tel peuple, tel Dieu. Autrement dit, l'honneur de Dieu dans le monde est en quelque sorte lié, d'une certaine façon, à notre sanctification. Et ceci est très important. La sanctification n'est pas un luxe facultatif, mais c'est le chemin et la vocation de tout enfant de Dieu. Exode 19:6, « Vous serez pour moi une nation sainte. » Éphésiens 1:4, « Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dieu compromettrait en quelque sorte son caractère si, en se rachetant un peuple, il le laissait non sanctifié. Si son peuple n'est pas saint, les adversaires diront que Dieu, le Dieu de ce peuple, n'est pas saint et sa renommée sera éclipsée. C'est pourquoi Dieu œuvre avec persévérance et constance pour nous détacher toujours davantage de nos idoles en suscitant pour lui un amour plus grand que l'amour que nous avons pour nos idoles. Dieu nous restaure parce qu'il a à cœur la sainteté de son nom. Écoutez bien quelques versets. 1 Samuel 12, 22. « L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Écoutez bien aussi ces mots remarquables en Ézéchiel 36. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, c'est à cause de mon saint nom. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous. Sous leurs yeux, je vous sauverai de toutes vos souillures. » Les mots « à cause de son nom » donc nous rappellent que tous les rapports du Seigneur avec nous sont sur la base de sa grâce et nullement à cause de choses que nous mériterions. Et cette révélation de Dieu sur cette attitude de Dieu, si on peut dire, c'est notre sécurité et c'est la force de notre salut. Dieu ne nous sauve pas parce que nous sommes gentils et aimables. En réalité, nous n'avons rien pour attirer sa faveur, son intérêt. Si notre salut devait s'opérer grâce à notre fidélité, si notre pardon devait dépendre de la profondeur de notre repentir, si la gloire finale devrait être conditionnée par nos efforts dans la sanctification, nous serions tous perdus. Mais le motif de notre salut est en Dieu. La sûreté de notre salut est en Dieu, qui s'est engagé envers le peuple de son alliance. Il a mis son honneur dans la perfection de notre salut. C'est là pour nous notre assurance, notre paix, notre joie. Nous sommes tenus parce que nous tenons parce que nous sommes tenus par le Seigneur lui-même. Je trouve très intéressant que dans la Bible et surtout dans les psaumes, les chrétiens souvent se servent de cette révélation divine pour leurs prières. Écoutez quelques prières. Secours-nous, Dieu de notre salut, délivre-nous et fais l'expiation de nos péchés à cause de ton nom. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bienveillance est grande. Ô, délivre-moi. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de cœurs brisés, de vies brisées, de familles brisées, de personnalités brisées, parce que les gens préfèrent marcher dans leur propre sentier autodestructeur. Le fait que Dieu nous aime, nous restaure, nous ramène à lui, nous conduise dans les sentiers de la justice est l'un des plus doux cadeaux de l'Alliance. Dieu le fait par pure grâce, à cause de son nom. Nous sommes sauvés par la justice de Jésus-Christ qui nous est donnée. Nous l'avons chanté tantôt, Jésus, ma justice. Et le Saint-Esprit nous sanctifie et nous fait marcher dans les sentiers de la justice. Tant que nous allons vivre dans ce monde, nous ne serons pas sans péché, mais par l'action de Dieu en nous, son action puissante, nous haïssons de plus en plus le péché et nous travaillons de plus en plus à le combattre par la puissance de Dieu. Brebis du Seigneur, es-tu tourmenté ce matin parce que tu t'es éloigné du bon berger? Reviens au bon berger. Les brebis connaissent la voix du bon berger, dit Jésus. Entends la voix du bon berger qui, ce matin, te rappelle à lui. Pour connaître la voix du bon berger, il faut passer du temps avec le bon berger. Vous avez peut-être déjà reçu un appel téléphonique. Puis quelqu'un vous dit, hein, tu ne me reconnais pas? Et vous dites, non, je ne reconnais pas cette voix-là. Parce que peut-être vous n'avez pas eu de lien avec cette personne depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne reconnais pas ma voix. Non, désolé, je ne reconnais pas la voix parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de lien ensemble. Eh bien, pour connaître et reconnaître la voix du bon berger, nous devons être en communion avec lui. Nous devons prendre du temps avec lui chaque jour dans sa parole pour l'écouter, pour lui parler, et ainsi nous reconnaîtrons sa voix. En conclusion, à sa brebis égarée, le bon berger dit ce matin, « Reviens, jusqu'à quand resteras-tu dans l'errance? Reviens, je n'aurai pas pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais ta faute, tu n'as pas écouté ma voix. Reviens, je te prendrai et je te ramènerai. Reviens et je te guérirai de tes inconstances. » Et le résultat, ça va être une triple joie. Joie d'abord pour la brebis qui est ramenée. Le péché est le cimetière de la joie. Le retour à Dieu est la résurrection de la joie. Joie aussi pour le berger. Nous avons lu dans notre première lecture Jésus qui dit « Le berger met avec joie la brebis sur ses épaules et dit à ses amis et voisins « Réjouissez-vous avec moi !» Et aussi finalement la joie dans le ciel. Le Fils de Dieu a dit « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Joie, joie, joie. Amen.